Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Pour ce premier épisode de la saison 2, nous allons nous intéresser au thème de la résilience et essayer de comprendre pourquoi c'est un enjeu essentiel pour notre société et comment s'y engager en tant que citoyen et professionnellement. Pour nous guider à travers ces questions, je reçois Alexandre Boisson, qui est un expert du sujet. Bonjour Alexandre Boisson, vous êtes fondateur de l'association SOS Maire, ancien garde du corps à la présidence de la République et spécialiste de la résilience de la société. C'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui et que nous allons explorer ensemble pour en définir les enjeux, l'importance de s'engager pour cette résilience et puis comment le faire. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous parler de votre parcours ?
Alors j'ai eu un parcours de policier national. C'est un métier qui m'a fasciné. Et donc très vite, même pour mon service national, je l'ai fait dans la police nationale. À ce moment-là, donc en 94, j'ai été affecté dans un quartier difficile de Saint-Quentin dans l'Aisne. Et c'était à cette époque-là la police de proximité, quelque chose, cette police de proximité qui était très très intéressant au niveau social. Socialement, ça permettait quand même de tisser des liens et ne pas être toujours dans la répression. Ensuite, j'ai intégré vraiment la police nationale en 96 et donc je suis passé par plusieurs services, dont la préfecture de police, la surveillance des alarmes de Paris, des choses comme ça. Puis j'ai intégré la brigade anticriminalité de nuit, donc diamétralement, pas opposé, mais c'est pas du tout les mêmes fonctions que la police de proximité pour le coup, et c'était beaucoup plus un rôle d'intervention sur des problématiques de crimes et de délits. Ensuite, j'ai passé le concours du service de protection des hautes personnalités, puis j'ai intégré peu de temps après le groupe de sécurité du président de la République, où je suis resté 9 ans. 9 ans où donc j'ai appris à anticiper les crises. Là, en l'occurrence, la crise, ça peut être une atteinte à la vie du président de la République, ou alors une atteinte à son image. Ce n'est pas que forcément le physique qui compte. Et donc, ce métier m'a appris à anticiper, parce que contrairement à ce qu'on croit, la protection des présidents, on imagine que c'est ce qu'on voit à la télé quand un garde du corps est à côté. Non, ça représente à peine 10% du travail. Les 90 autres pourcents du travail, c'est justement comprendre les enjeux de sécurité, c'est savoir faire une veille sur les nouvelles menaces, s'entraîner, organiser les services autour de la protection du président quand il se déplace, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, c'est beaucoup plus un travail intellectuel, la plupart du temps, qu'un travail physique. Ça demande beaucoup de résistance psychologique, je dirais même psychique, pour tenir des heures durant sans qu'il se passe rien, et puis être à chaque fois réactif quand il se passe quelque chose, et réactif le plus rapidement possible, parce que quand on est donc dans ces fonctions-là, on est un chassé et non pas un chasseur. Autant quand j'étais à la brigade anticriminalité de nuit, j'étais plutôt un chasseur. Dans la position du garde du corps du président, j'étais un chassé. Et donc, on lutte contre le temps, quand c'est comme ça. Et donc, bon, toutes ces réflexions m'ont amené, après mon départ de l'Élysée en 2011, avant la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, à étudier encore plus la sécurité, mais cette fois-ci de manière holistique. Alors, comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, j'étais en désaccord avec ces guerres qu'on fait toujours pour le pétrole sous des bannières qui sont celles de la démocratie. Alors ça, c'est mon point de vue, hein, mais après, je vous invite à faire vos propres recherches. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer à faire autant de mal sur cette planète en faisant des guerres. Des guerres, il faut dire ce que c'est, hein, ça tue des gens, ça fait des personnes qui perdent leur maison, ça fait des déracinés, et puis donc ça amène forcément au bout d'un moment des rancœurs, et des rancœurs qui peuvent être, si elles sont manipulées, très graves, parce que ces rancœurs peuvent conduire au terrorisme. Et je me suis dit que systémiquement parlant, donc en étudiant le système, on ne pouvait plus continuer à dépendre autant d'une énergie qui nous amène quelque part du terrorisme, puisque plus cette énergie se tarit, plus les grandes puissances qui en dépendent veulent cette énergie. Alors je ne vais pas faire plus long parce que ça fait déjà assez long là pour une présentation de bio, mais c'était pour juste passer à l'étape d'après. Pourquoi j'ai créé SOSMER et qu'est-ce qui m'a conduit à, depuis ces analyses systémiques, à dire, bon, c'est bien de faire le constat, mais surtout, aujourd'hui, il faut apporter des solutions. Eh ben, c'est en ce sens que je me suis entouré d'experts de différents domaines, de collapsologues, et j'aime pas ce mot, parce qu'en fin de compte, on parle d'analystes honnêtes, hein, au même titre que on peut comparer les journalistes qui disent ce que la bien-pensance a envie de dire, et puis les journalistes respectueux de la Charte de Munich, donc les vrais journalistes qui font un travail de vérité, eh ben les collapsologues, il faut pas les stigmatiser, il faut arrêter avec ce mot collapsologue, ce sont des analystes, au même titre que Meadows, dans les années 70, faisait son analyse sur la croissance. Et donc, je me suis entouré d'experts, nous avons travaillé aux solutions, qui sont des petites solutions par rapport aux enjeux, et donc nous avons créé SOSMER. Voilà quel est mon parcours professionnel et intellectuel.
Merci beaucoup pour cette introduction et ce résumé pour comprendre un petit peu la genèse et ce qui vous a amené à vous engager avec SOSMER. Peut-être en deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait justement SOSMER aujourd'hui ?
Alors, je refais un bond dans le temps. SOSMER essaie de gagner du temps. Comme je le disais, le garde du corps essaie de gagner du temps parce que quand il se passe quelque chose, quand on est un chassé, on a toujours un temps de retard. Donc le but, c'est de s'entraîner un maximum pour que quand il se passe quelque chose, qu'on ait encore le temps de réagir. SOSMER, c'est sur ce principe-là. Donc SOSMER, c'est une association de fait qui rassemble des experts, comme je l'ai dit, et qui travaille à des solutions systémiques, donc qui font système. Et donc, nous avons identifier donc les problématiques et aujourd'hui nous avons défini un mode opératoire qui nous permet auprès des élus, auprès des administrés de faire jouer certaines lois qui aujourd'hui ne sont pas respectées pour que nous renforcions notre pays face aux enjeux, mondiaux de justement cette compétition autour des énergies, ces problèmes climatiques qui vont amener de plus en plus de crises. Et on voit bien ce que c'est de ne pas avoir assez bien anticipé une crise. Ça fait des morts. Donc c'est hyper important aujourd'hui qu'il y ait des modes opératoires qui soient donnés à portée de compréhension de la population pour que justement cette population s'en empare, découvre qu'en fin de compte, elle vit dans l'illégalité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il existe des lois qui régissent notre pays, notre vivre ensemble, et ces lois elles-mêmes invitent à connaître la vérité sur une situation, anticiper et proposer des solutions. Je fais référence à la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile. Et donc, en faisant un lobbying citoyen, SOSMER permet de donner de la visibilité à une des solutions qui nous permettrait d'être plus résilients.
Alors merci, et effectivement ça fait le lien avec la notion de résilience, puisque c'est bien l'objectif d'SOSMER, si je comprends. Est-ce que, peut-être pour entamer cette question, cet échange autour de la résilience, vous pouvez nous aider à définir ce que c'est que la résilience de la société ?
Alors, il y a plusieurs types de résilience. Il y a la résilience des métaux, la résilience qui a été expliquée par Boris Cyrulnik, et puis il y a la résilience dont on parle, mais toutes font état d'un même processus, c'est la capacité à revenir à un état normal après avoir subi un choc, un traumatisme, et, bref. Donc, le but, c'est de au moins de revenir à son état normal. On va plus loin, mais on n'en parle pas aujourd'hui avec SOS, mais on essaie déjà de dire, quand on a des crises, il faut qu'on puisse se relever. Hein. L'étape d'au-dessus, c'est se dire transcender. Transcender, c'est également pouvoir passer les crises, c'est-à-dire c'est-à-dire comme si elles nous traversaient sans qu'elles nous affectent. Alors, on n'en est pas là. Déjà, on essaie de travailler la résilience. Donc, qu'est-ce que serait la résilience de d'une commune française? Bah, typiquement, si on prend une commune, petite commune, ça va être en capacité, alors qu'il y a des problèmes sur les transporteurs routiers, prenons l'exemple de la Covid-19, imaginons, replaçons-nous en mars. En mars, que se passe-t-il en mars? Il y a beaucoup de transporteurs routiers qui sont touchés par la Covid. Il commence à y avoir des morts et beaucoup de gens affectés. Naturellement, légitimement, la profession, les transporteurs routiers, dit écoutez, nous, on va débrayer parce qu'en plus, les conditions de vie que nous avons, c'est-à-dire que les aires d'autoroute qui sont fermées, on peut plus se toucher, on peut plus aller manger, ça devient infernal, on ne supporte plus, on va se mettre en grève. Bon, typiquement, si eux se mettent en grève, Stéphane Linou l'a prouvé, il n'y a pas assez de résilience alimentaire locale. Donc, si, je répète, si les transporteurs routiers s'arrêtent de livrer les supérettes et les supermarchés dont les administrés de notre petite commune dépendent, les administrés devant les rayons vides se posent la question légitime de qu'est-ce qu'on va pouvoir bien manger. Donc ils vont regarder, ils vont faire un tour à 360 degrés, et ils vont voir un producteur ici, ils vont voir des champs là-bas, et se dire bah, peut-être qu'il y a assez à manger. Le problème c'est que au regard de la population de la commune, du nombre de personnes qui assurent la commune, est-ce que le petit producteur peut les nourrir? Non, il y a trop de monde. Est-ce que les champs qui sont autour sont des champs qui produisent des produits pour l'alimentation humaine? Eh bien là, je vous invite à découvrir la réponse en étudiant le travail de Stéphanie. Donc, pour résumer, la résilience de cette petite commune, quelle va-t-elle être? Comment on va pouvoir l'organiser? C'est parce que, justement, des élus vont respecter la loi, et les administrés aussi. Ils vont se dire, on a fait le constat, on connaît notre commune, on connaît les dangers, c'est-à-dire que si les transporteurs routiers s'arrêtent, il n'y a rien à manger, donc nous organisons la résilience. La résilience alimentaire locale, donc la capacité à traverser une crise. C'est-à-dire que, admettons que, pleine crise Covid, notre petite commune ne soit plus alimentée en fruits et légumes, viande et autres produits alimentaires. Si la petite commune a respecté la loi et garanti un espèce de tampon alimentaire le temps que la crise soit résolue, eh bien là, on est résilient parce qu'on n'a pas de trouble à l'ordre public généré ces troubles à l'ordre public par des gens qui, devant des étals vides, des rayons vides de supermarchés, vont commencer à aller voir le maire, le secouer, mais dire « vous n'aviez pas pensé », alors que c'était son devoir au maire. C'était leur devoir aussi aux administrés de connaître les crises. Ce sont des obligations légales, tout ça. Donc, à partir du moment où on a organisé, on a anticipé, on a un tissu de producteurs locaux, on a un tissu de permaculteurs, par exemple, où on a soi-même sa régie agricole communale, on peut faire face. Et ce n'est pas pour autant, parce qu'on a pris ces mesures-là de sécurité, ces mesures obligatoires, qu'on casse le marché international. Au contraire, les gens sont toujours libres d'aller dans leur supermarché s'ils le souhaitent, mais par contre, ce qui est important, c'est que les gens soient sensibilisés aux crises, c'est une nouvelle fois un devoir légal, et pas seulement les crises définies par le plan communal de sauvegarde, qui ces crises sont elles-mêmes transcrites dans le DICRIM, document d'information des risques majeurs. Cette sensibilisation est obligatoire, cette sensibilisation des populations est obligatoire, parce que, au regard de la loi, les élus ont devoir de connaître les alertes, les comprendre, définir des plans pour les anticiper, pour que, justement, à chaque fois, on puisse se remettre d'une crise. C'est ça. Donc, notre petit village, imaginons, et j'en termine là-dessus, a entendu ce discours, respect de la loi, production de résilience alimentaire locale, puisque il y a la sénatrice Françoise Laborde qui a fait une proposition de résolution au Sénat, Donc on ne peut plus ignorer le phénomène. Sur les travaux de Stéphane Ninou, c'est 20 ans d'enquête hein, sur la résilience alimentaire qui nous fait défaut. Et deuxième point, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, on ne peut pas accuser d'être collapsologue, elle disait en début de crise qu'il n'y avait pas de stock stratégique alimentaire d'État. Point. Donc, notre petit village qui a bien entendu ses alertes, qui fait bien son travail d'anticipation des crises, lui est résilient. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il a prévu, comme à Ungersheim, avec Jean-Claude Mensch, les magasins pourraient bien être vides, les gens de la commune seraient moins en panique que les autres. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est de savoir combien il y a de villages résilients en France ou de villes résilientes en France. Et là, c'est là où intervient SOS Maire, parce qu'il y en a trop.
Alors, si je comprends bien, en fait, quand on parle de résilience, on parle avant tout de résilience alimentaire. Et c'est une résilience qu'on va essayer de trouver, enfin de construire au niveau local, avant tout.
Oui, alors, moi je mets un S à résilience, on parle de résilience au pluriel. Mais on ne fait rien le ventre vide. Si on veut parler des résiliences qu'il nous faut au niveau énergétique, pour que ça ne soit pas une catastrophe non plus, si on veut une résilience santé, bah avant tout ça, il faut quand même qu'on ait une résilience alimentaire qui nous permette d'avoir le ventre plein, ce qui nous permet encore de réfléchir. Sinon, ça n'a aucun sens. Il faut partir de la base de pyramide de Maslow, cette pyramide étant la pyramide des besoins. C'est-à-dire qu'on a besoin de se loger, de se nourrir, d'avoir de la sécurité avant de passer aux étapes supérieure du développement de soi-même. Donc, il est important de mettre l'accent sur la résilience alimentaire parce qu'elle fait défaut et elle nous fait vitale. Mais bien sûr qu'on parle des autres résiliences parce que ça peut avoir des conséquences catastrophiques de ne plus avoir d'électricité. Et je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière avec une petite commune qui, dirigée par la maire Geneviève Girard, avait écrit carrément au président Macron parce que elle subissait une crise de l'énergie, donc il y avait eu des chutes de neige et il n'y avait plus de d'électricité, et donc elle était passée, son alerte était passée sur BFM le 21 novembre 2019 parce que au bout d'un moment elle subissait des problèmes d'agressivité, d'incompréhension de la population qui n'est plus habituée à la privation. Donc c'est très très important de penser à toutes les résiliences. Mais la première des résiliences, c'est manger. Voilà. La première, c'est inconcevable de faire de la politique, de la philosophie, et ainsi de suite, le ventre vide trop longtemps. Donc commençons par les priorités.
Alors, je pense que beaucoup de gens peuvent se dire « Non, mais de toute façon, en France, la situation est prévue. Il paraît complètement impensable qu'on n'ait pas assez à manger en cas de crise ou en cas de bateau ou de transport qui fonctionne moins bien. » Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire quelle est la situation justement en France, quelle est la situation au niveau des communes et quels sont les risques qu'on encourt aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène de la dilution des responsabilités, c'est l'effet spectateur ou l'effet du témoin. C'est-à-dire que, comme le dit très justement Stéphane Ninou, parce que c'est son sujet la résilience alimentaire, on s'en fait que le perroquet de Stéphane Ninou, à SOS Maire. L'effet témoin, c'est justement penser que l'autre va faire ou a fait. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que dans la société française, les gens en responsabilité pensent que l'autre a fait. Le maire, parfois, pense que c'est le préfet qui a pensé à la résilience alimentaire. Et le préfet, lui-même, pense que le maire y a pensé. Et puis, certains imaginent qu'il y a des stocks alimentaires d'État. Eh ben non, ça n'existe pas. Donc, avant le virus de la Covid, et là je suis très provocateur, on a un virus de l'impensé. Un virus de l'impensé, c'est-à-dire que ça, cet effet spectateur, cet effet témoin, la dilution des responsabilités, fait qu'aujourd'hui, nous sommes en danger. Concrètement, je vous mets au défi d'aller trouver une ville qui vous dise « nous sommes autonomes en alimentation en cas de crise systémique majeure ». Nous avons essayé d'en trouver une. On a trouvé à peine une Gersheim, mais sur la totalité des villes et des villages qui font des choses intéressantes, il n'y en a pas une qui puisse se revendiquer d'être autonome en alimentation. Et c'est quasiment impossible d'être autonome en alimentation. On ne peut que se coordonner entre plusieurs villes et villages pour arriver à avoir les espaces, les organisations, le partage de matériel, de savoir et de forces motrices humaines pour arriver à cette autonomie. Mais ça prouve bien que quand on fait l'état des lieux de l'autonomie alimentaire aujourd'hui sur notre territoire, en cas de crise majeure, il n'y en a pas. En tout cas, pas de nature à empêcher des troubles à l'ordre public, voire plus grave, des émeutes. Parce qu'on voit bien que pour moins 70% sur du Nutella, bien avant la Covid et à la période du Covid, les gens qui dévalisaient les supermarchés de papier toilette, on voit bien que la population n'est pas sensibilisée, n'est pas apprêtée, et ça c'est une erreur, aux crises qui nous sont pourtant annoncées. Je répète, hein, l'ONU nous annonce des crises majeures au niveau de l'alimentation à l'international, mais pas que. L'Agence internationale de l'énergie nous annonce qu'on risque d'avoir des problèmes sur l'énergie. Enfin bref, donc ces alertes-là n'ont pas, au regard de la loi, n'ont pas vocation à être ignorées. Et les responsables qui sont payés pour avoir des responsabilités doivent connaître et la loi et ses alertes.
Alors effectivement, je pense que ce type de mise en garde pouvait rester inaudible il y a encore un an, puisqu'on se disait non, mais il n'y a aucun risque de crise ou autre. Je pense que effectivement, la Covid-19 nous a montré que enfin, c'était assez rapide et facile de tomber dans une crise internationale. Maintenant qu'on a établi un petit peu ce que c'est que la résilience, et notamment la résilience alimentaire, enfin, qu'on a compris ce que c'était et qu'on a compris pourquoi c'était important, comment est-ce qu'on fait pour construire cette résilience?
Alors, on va faire un peu de publicité pour SOS Mer, parce qu'on a tous travaillé bénévolement pour permettre le plus de sécurité possible et on ne veut pas avoir travaillé pour rien. Alors, on a fait une page action sur le site sosmer.com où on définit comment on va approcher sa mairie et lui demander la mise en place de la résilience alimentaire locale et des autres résiliences a posteriori, comment on va le faire de manière légale, concertée, en paix et de manière très constructive. Alors si vous allez sur le site sosmer.org, vous allez trouver une page action, un onglet, pardon, action. Et donc si vous cliquez dessus, vous allez donc trouver des kits d'action et comment on aborde donc sa mairie, c'est-à-dire poliment, posément, pour demander dans un premier temps, quand cette commune est soumise au DICRIM, bah, de consulter le DICRIM. Hein, je répète ce que c'est, hein, le DICRIM, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs. Et là, donc, on va posément demander à consulter ce DICRIM. Vous avez des risques de découvrir que soit il n'est pas rempli, soit il est inopérationnel, et donc ça, c'est illégal, une nouvelle fois. À l'issue de ça, bah, ce qu'il faut, c'est demander où en est la résilience alimentaire locale, puisque maintenant, avec la Covid-19, on est encore plus fort de cet argumentaire qu'en mars et en mai, on a frisé la correctionnelle. Donc maintenant, il faut vraiment se bouger pour respecter la loi et faire en sorte que, donc, dans les plans communaux de sauvegarde, soit intégrée la notion de résilience alimentaire locale pour traverser les crises. Et donc, quand vous êtes à la mairie, que vous avez ce type de discussion, que vous soyez seul ou accompagné, le mieux c'est d'être à plusieurs, là, de fait, vous faites un travail d'éveil des consciences. Et c'est ça qui est important. Le but, c'est de ne pas arriver comme un inquisiteur en mairie, mais beaucoup plus d'arriver dans une position constructive en disant, écoutez, nous sommes conscients des problématiques que la mairie encourt, que la commune encourt, pardon. Et donc, nous sommes à vos côtés pour essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et donc ça, c'est une démarche hyper constructive parce que C'est aussi une démarche qui est encouragée par la loi de modernisation de sécurité civile, la loi de 2004-811. Et donc, progressivement, on entame une discussion et il y a de fortes chances que le maire, les élus, proposent à ceux qui viennent comme ça en mairie d'être force de proposition. Et force de proposition, c'est pas compliqué. Pourquoi ? Parce qu'avec SOS Maire, nous avons référencé plusieurs initiatives, mais le mieux, c'est d'aller en chercher encore soi-même, parce qu'on ne peut pas tout savoir à SOS Maire, tout un tas d'initiatives qui ont été prises, ces initiatives, par des communes pour faire des régies agricoles communales. Donc, c'est-à-dire embaucher des gens pour devenir agriculteurs et ne serait-ce que faire de l'alimentation bio pour alimenter les cantines scolaires de la commune ou les cantines d'administration. Ça peut être mettre à disposition des terrains pour y faire de la permaculture, faire des jardins partagés, etc., etc., etc. Et en ce sens, je vous invite aussi à relayer le travail formidable de Sabine Becker et de François Rouillet, qui sont de l'université francophone pour l'autonomie alimentaire, parce que là, toutes les solutions sont évoquées pour justement permettre cette autonomie alimentaire des communes. Donc, nous sommes en position de force, nous, les citoyens, quand nous allons dans une démarche constructive en mairie, proposer la construction ensemble de la résilience alimentaire locale. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste de l'éveil des consciences et de la coordination. Et en fin de compte, le maire n'a quasiment rien à faire, hein. C'est juste de dire « je vous ai entendu, on respecte la loi ensemble, on fait ce qu'il y a à faire », je répète, la loi 2004-811, et voilà, c'est simple comme une lettre à la poste. Alors, ça, c'est dans l'esprit. Après, dans les faits, il faut quand même se bouger pour creuser la terre, et ainsi de suite. Et là, ça fait appel à d'autres compétences. Mais les compétences, je le répète, Sabine Becker et François Rouillet les ont identifiées. Il y a aussi le formidable travail des ingénieurs qui ont permis une prospective avec ces ingénieurs qui se sont regroupés pour faire le fascicule, les greniers d'abondance. Donc, on a toutes les clés, tout est là pour pouvoir faire les choses. Il n'y a aucune excuse à ne pas le faire. Et là, quand vraiment vous avez une opposition à respecter la loi, bah, il faut quand même il faut passer à une étape supérieure. Si vous voulez, on en parlera.
D'accord. Donc, c'est avant tout un engagement citoyen pour comprendre au niveau de sa commune, déjà, bah, si un, la loi est respectée, qu'est-ce qui est fait ? Pour ensuite développer des démarches, des actions. Donc je redis, dans un premier temps, un engagement au niveau citoyen. Mais pour comprendre un petit peu aussi quels sont les différents secteurs et les activités qui s'organisent autour de cette résilience alimentaire, quelles sont enfin, les activités professionnelles, les corps de métier qui sont touchés, qui sont responsables et qui sont acteurs autour de cette résilience alimentaire.
Alors, il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés, mais essentiellement pour la résilience alimentaire, c'est le secteur agroalimentaire. Donc, ce qu'a fait le maire de Langouette, enfin l'ex-maire de Langouette, Daniel Cueff, c'est formidable. Alors, il a une posture très engagée, parce qu'il fallait porter le débat public sur les pesticides, mais c'est quelqu'un de bienveillant et qui a voulu, par exemple, travailler avec les agriculteurs. Parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, se permettre de tout bouleverser non plus. Il faut bien veiller à la gouvernance de la commune. Parce que quand vous proposez quelque chose de nouveau, sur un parterre d'administrés, si imaginons que vous faites une réunion pour parler de la résilience alimentaire, ce qui devrait être fait d'ailleurs, hein, au regard de la sensibilisation des populations, vous allez proposer donc la résilience alimentaire. Très bien, mais si c'est mal amené, vous allez avoir des oppositions et vous allez créer peut-être des troubles à l'ordre public, parce que quand vous proposez quelque chose de nouveau, ça c'est la gouvernance qui l'explique, vous avez d'un côté des gens qui trouvent ça formidable, et d'autre côté, des gens qui voient leur intérêt remis en question. Et quand c'est des intérêts d'agriculteurs, on sait à quel point ils sont dans des positions difficiles pour certains. Il y a assez de suicides en France. Il ne s'agit pas de ramener en plus du stress et de les écarter de cette question de résilience alimentaire. Au contraire. Et ce qu'a fait Daniel Kueff, c'est ça. Excusez-moi. Il a voulu faire des concertations. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça aussi, c'est le maire de Kingersheim. Il faut absolument réactiver le processus démocratique pour arriver, le maire de Kingersheim, Joseph Spiegel, pour arriver avec la gouvernance, et ça c'est la thèse du docteur Adrien Biassin, avec la gouvernance, pacifier les a priori, faire en sorte que les agriculteurs, par exemple, les gens qui travaillent déjà, les paysagistes, qui travaillent déjà avec la commune, ceux qui ont des fonctions dans la commune, sachent qu'il y a un nouveau plan de résilience alimentaire qui devient obligatoire pour des questions de sécurité. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer et dire « Écoutez, moi, ça me convient pas parce que je préfère mettre des géraniums que des carottes. » Voilà, parce que moi, je suis paysagiste, je suis là pour embellir la ville, je suis pas là pour mettre des choux et des navets. Bon, très bien, ça doit être considéré. Moi, je suis agriculteur, j'ai des inquiétudes parce que c'est bien beau, mais ça fait un peu kolkhoz communiste, là, ce truc. Moi, j'ai déjà du mal à m'en sortir, donc comment on va faire? Et c'est à partir de cette discussion de sensibilisation que les gens se révèlent, comprennent les enjeux et progressivement, avec tous les corps de métier, vont trouver le moyen de créer un consensus qui va permettre cette résilience. Ça, la résilience alimentaire locale ne peut pas se faire sans ce consensus. Si on va, fond les ballons, faire de la résilience alimentaire qui met en péril l'activité économique d'un acteur clé de la commune, on n'est pas bon. On se condamne. Donc, il est important qu'il y ait une concertation, mais toujours dans le cadre de la loi, parce que les gens doivent bien comprendre que leur intérêt va changer. Et il faut que cet intérêt personnel évolue, voilà, évolue dans le sens positif, mais pas, il ne faut pas amener la résilience alimentaire locale, la construction de la résilience alimentaire locale, contre les intérêts pour qu'il y ait des réactions négatives. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est réorienter pour que chacun trouve l'intérêt de faire cette résilience alimentaire locale, s'y adapte, c'est-à-dire qu'il y a peut-être avec les agriculteurs de nouveaux marchés à explorer qui sont plus locaux, parce qu'à partir du moment où vous avez des administrés qui eux aussi sont conscients des enjeux, parce qu'ils sont sensibilisés au regard de la loi 2004-811 aux crises, et qui se disent bah, « c'est vrai que pendant la Covid-19, comme on n'était plus chez nous, on a plus consommé du petit producteur ». Maintenant que tout le monde se remet à travailler, à reprendre sa voiture, ben on retourne à nos habitudes, les supermarchés, le truc facile. Donc il y a des choses à inventer carrément grâce à la résilience alimentaire locale. Si j'ai encore un peu de temps, je vais vous expliquer pourquoi.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, quelle est la problématique du citoyen français qui travaille? C'est le temps. D'accord? Donc quand on était confiné chez nous, avec la Covid-19, on avait le temps d'acheter des poireaux du producteur local, peut-être encore avec de la terre des tomates, des navets, tout ce que vous voulez. Bon, bref, vous aviez le temps de les laver, de les couper, de les préparer, hein, parce que vous n'étiez pas au bureau. Vous étiez peut-être à peu près en télétravail ou des choses comme ça, mais vous aviez du temps. Maintenant que l'activité économique reprend faiblement, et que d'ailleurs il faut cravacher pour rattraper le temps perdu, vous comprenez bien que du temps vous en avez quasiment plus. Donc le citoyen moyen qui travaille beaucoup et qui rentre chez lui, il va pas retourner chez un producteur local pour se rajouter du temps à nettoyer, à laver de la terre ses fruits et légumes, à faire des petits plats, parce que sinon il se couche à 1h du matin. Donc si on a une problématique de temps, quand on va concerter les administrés en mairie, hein, avec tout le monde, nous devons aller, au regard de la loi, vers plus de résilience alimentaire locale, on va créer de nouvelles activités. Typiquement, que font les industriels? Ils font gagner du temps aujourd'hui aux gens, parce qu'ils font un plat préparé. Ce qui fait que le citoyen moyen, là, qui n'a pas le temps, bah, il passe vite fait au supermarché, récupère sa, je caricature, hein, il récupère sa barquette de produits transformés, il met ça au micro-ondes, et puis voilà, il peut se coucher à des heures à peu près correctes pour qu'il ait assez de sommeil pour recommencer le lendemain à bosser. Quand vous faites de la sensibilisation, que vous dites justement, donc vous êtes élu de la commune, maire de la commune, vous avez rassemblé une agora autour de la résilience alimentaire, qui est obligatoire au regard de la loi, vous allez dire, nous voulons essayer de satisfaire tout le monde, et est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, que cette activité de transformation des produits locaux puisse se faire en local? C'est-à-dire que j'en termine là-dessus, le citoyen qui n'a pas le temps, plutôt que de passer au supermarché, acheter un truc industriel dont il n'a aucune visibilité sur la qualité des produits, la qualité nutritive et la manière dont ça peut le mettre en santé ou pas en santé, ce produit transformé, eh ben, celui-là, plutôt que de faire ça, plutôt que de courir au supermarché pour acheter quelque chose qui n'est peut-être pas forcément bon pour sa santé, il peut passer à un relais où il va avoir son plat préparé local, avec des emplois créés autour de ce plat préparé local, avec des produits locaux qui ont construit la résilience alimentaire de fait. C'est le moyen aussi, cette résilience alimentaire locale, qui respecte la loi et qui a assez bien sensibilisé les citoyens sur les problématiques de crise que nous allons devoir traverser. Cette concertation permet la création d'emplois, la dynamisation économique, et ça apporte plus de sécurité, et au final, cette résilience alimentaire locale, ses forces doivent rester à la loi.
Donc si je comprends bien, aujourd'hui, au niveau de l'engagement et de ce qu'on peut faire, il y a l'organisation, hein, au niveau de la commune, faire en sorte que les gens se parlent sur une gouvernance, avec un niveau de gouvernance apaisé pour ne pas remettre en jeu les intérêts économiques des uns et des autres, pour construire ensemble. Et puis il y a comment est-ce que finalement on facilite l'accès aux citoyens à cette nourriture locale. Et peut-être aussi comment est-ce qu'on met en place cette nourriture locale. Alors est-ce que maintenant, si on continue sur ce même sujet, comment est-ce que concrètement, moi par exemple, je vis à Albi, comment est-ce que j'ai envie d'alerter mon maire et j'ai envie d'organiser une discussion au niveau de la ville sur la résilience alimentaire? Comment est-ce que je fais? Est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux le faire tout seul? Est-ce qu'il faut que je crée une association? Est-ce qu'il faut que ce soit le maire qui soit à l'initiative de ça?
À la base, ça devrait être le maire. D'accord? Mais on ne va pas affliger le maire, parce que le maire, il a déjà énormément de choses à gérer et il a que 24 heures par jour. Donc, quand on voit que son élu est déjà en prise avec autant d'obligations, autant d'inquiétudes sur comment gérer sa commune, il faut l'aider. Hein. Ça, c'est le principe. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir les autres élus, hein, puisque parce qu'il n'y a pas que le maire, hein, qui est en responsabilité, il y a plein d'élus, et à proposer ce genre d'agora. Hein. Donc, c'est rassembler les personnes sur justement les. Alors, il ne faut pas parler anxiogène, parce que nous, on a fait l'expérience. L'anxiogène, ça fait fuir les gens. Dire, oh là là, on va passer des crises, ça va être dangereux. Mais on peut inverser le discours pour qu'il devienne très positif et dire. Voilà les bienfaits de respecter la loi et donc de construire la résilience alimentaire. Dynamisation économique, célébration justement des cultures, enfin nouvelles traditions à créer, et puis bien sûr le fond du fond, c'est-à-dire la résilience alimentaire locale, donc tous ces nouveaux produits, je dis parle bien de nouveaux produits, parce que les produits qu'on a aujourd'hui qui sont infestés de produits chimiques qui n'ont plus de valeur nutritive, pire que c'est des produits, c'est bon, ça n'engage que moi, mais les nouveaux produits, bah, c'est réactualiser des semences anciennes, des semences de grenier, et ça, les gens vont être absolument contents à travers ces agora, parce qu'il ne faut pas oublier de faire goûter les gens aussi aux produits, c'est ce qui attire les ventres, hein, de créer des petites dégustations de fruits et légumes issus de semences anciennes. Et là, vous allez voir à quel point les gens vont adhérer et qu'ils vont trouver ça absolument génial. Donc, ça se fait en joie, hein, la création de la résilience alimentaire locale. C'est beaucoup plus efficace que le discours très anxiogène. Le discours très anxiogène, malheureusement, il est un peu tenu aux élus et aux maires, mais pour la population, la sensibilisation des populations, ben, il suffit d'aller voir sa mairie, dire, écoutez, moi, j'aurais besoin de la salle polyvalente ou d'une salle, voilà, pour vous aider au regard de la loi, parce que c'est aussi mon devoir d'administrer, vous aider à la sensibilisation des populations. Et donc, nous voulons organiser une agora sur, et vous pouvez prendre en référence le livre de Stéphane Linou. Alors ça, c'est le côté un petit peu anxiogène, parce que c'est le constat est accablant, il est alarmant, mais Stéphane Linou, une nouvelle fois, c'est celui qui fait le défi « Je viendrai manger local chez vous ». Et alors là, ça, c'est super sympa, c'est organiser des petits gueuletons avec des produits locaux dans un rayon de… Alors, c'était 150 km, je ne sais pas s'il n'a pas réduit le rayon à 50 km, je ne veux pas dire des bêtises, mais toujours est-il que c'est là où les gens… Ben, font leur chasse au trésor de trouver ce qui est vraiment du local et puis découvrent qu'il y a peu de choses. Et de fait, le fait qu'ils découvrent qu'il y a peu de choses, ben, ça les incite à vouloir qu'il y ait plus de choses. Et voilà comment on sensibilise les populations de manière heureuse, sans le poing levé, à gueuler. Voilà, c'est le but, c'est que ça se fasse vite en embarquant le plus possible la population dans cette réflexion. Parce que je veux mettre un bémol. Si on attend que ce soit le maire qui prenne toute la responsabilité, c'est une erreur. Parce que le maire, il a certes du pouvoir, mais il n'a pas des super pouvoirs non plus. Si la population ne suit pas, ses initiatives vont servir à rien. Donc le pauvre se sera bougé pour rien. Donc sans la population, on ne peut rien faire. Sans les administrés, sans qu'ils soient conscientisés, on ne peut rien faire. Donc si vous voulez faire justement quelque chose d'intérêt général, c'est une agora qu'il faut faire. Après nous, donc il y a Arthur Keller, Stéphane Linou et moi-même, nous faisons maintenant des formations aux maires, parce que bon, au bout d'un moment, nous avons décidé de faire de cette passion notre métier. Puis, donc, on fait des formations maintenant d'estimation des élus pour bien marquer les esprits, bien leur expliquer tout ce que je suis en train de vous expliquer, alors plus en détail encore, mais pour que. Pour que ça soit facile aux élus de mettre ça en place et donc aussi participer donc au respect de la loi. Donc nous faisons des formations tous les trois, Arthur Keller, Stéphane Linou et moi-même, pour la sensibilisation des populations et des élus. Mais on ne peut pas être trois sur toute la France, quoi, c'est pas possible. Donc il faut que chacun fasse ça. Et puis au bout d'un moment, les gens découvriront à quel point c'est super sympa de le faire. C'est surtout ça, c'est festif, la résilience alimentaire.
Alors, là, sur les pistes d'engagement qu'on a abordées, on a bien défini l'engagement citoyen, l'engagement politique, mais en rapport à ce que vous disiez aussi, et de manière un peu provocatrice de mon côté aussi, quand on est un citoyen lambda, qu'on n'a pas forcément le temps aussi de s'investir au niveau associatif ou au niveau simple engagement citoyen, j'allais dire, comment est-ce qu'on réoriente son métier? Comment est-ce qu'au niveau professionnel, on peut s'engager pour la résilience alimentaire?
C'est justement avec la mairie que ça va se décider, d'accord? Parce que vous n'allez pas pouvoir aller à l'inverse des intérêts communs. Donc, quand justement, il faut être stratège. Quand vous proposez justement cette agora, vous créez donc ces conditions de sensibilisation de la population, hein, des administrés. Vous allez élever les consciences, éveiller les consciences sur cette problématique, sur ces sujets-là. Vient la seconde étape, la question de la gouvernance, qui est cruciale. C'est-à-dire que à partir du moment où la population est sensibilisée, qu'elle a compris, qu'elle dit oui, c'est vrai, il faut qu'on se mobilise, bien sûr que ça crée des faisceaux d'opportunités professionnelles. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la création de plats préparés. Ça peut être la livraison de ces plats préparés locaux. Ça peut être plein de choses, des animations, ça peut être tout un tas de choses. Donc il y a un faisceau d'opportunités, mais ça se décide au moment. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour accompagner cette résilience alimentaire locale et ces résiliences, c'est au moment de la gouvernance que vous allez avoir la bonne information. C'est-à-dire quoi ? La gouvernance, c'est donc une nouvelle agora où vous prenez tous les acteurs locaux. Réunion presque de crise, pré-crise, nous allons devoir faire face à toutes les problématiques précitées, là, climatiques, puits pétroliers, etc. Nous sommes une nouvelle fois dans le contexte d'une réunion de sensibilisation des populations. Qui a intérêt à aller dans le sens de la réforme ? Qui n'a pas intérêt parce que ça nuit à ses intérêts personnels ? Bon. Une fois que vous avez identifié les personnes qui avaient un intérêt, vous les mettez de côté puisque ceux-là, ils vont être plutôt d'accord. Et vous prenez que ceux qui disent bah non, moi j'ai une activité agricole, je ne peux pas du jour au lendemain me transformer, j'ai des crédits sur mes tracteurs, j'ai mes crédits, j'ai acheté des produits. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous, tactiquement, vous allez définir quel peut être votre métier. Ça va peut-être être le métier d'accompagnement à la réforme, à la conduite du changement du milieu agricole. Comme je le répète, on ne va pas transformer toute l'agriculture. C'est faux. On va garder une agriculture qui permet géopolitiquement d'alimenter encore certains pays avec des céréales. Typiquement. Mais il y a une autre frange de l'agriculture qui, elle, par contre, va se réformer, qui va aussi trouver intérêt à se réformer. Et bien là, il y a accompagnement dans la conduite du changement. Il va y avoir tout un tas de faisceaux d'opportunités professionnelles que vous allez pouvoir identifier et qui sont pérennes, celles-ci, parce que ces activités professionnelles-là font consensus. Donc, vous ne prenez pas le risque d'inventer une profession qui pourrait accompagner la résilience alimentaire, mais qui irait contre les intérêts d'un trop grand nombre, ce qui fait que votre activité serait condamnée à terme. Il faut bien mettre le tuyau au moment de la question de gouvernance. Je ramène aux travaux du docteur Adrien Biassin sur la gouvernance, hyper important. Et c'est là, à ce moment-là, que vous allez déterminer quelle est l'activité professionnelle qui d'assez long terme où vous allez pouvoir donc avoir trouvé un métier qui vous rapportera assez d'argent sur une assez longue période.
Et alors, donc la première étape, on l'a bien compris, c'est vraiment d'organiser cette agora au niveau de la commune, si ça n'a pas été fait déjà. Et est-ce qu'il y a des exemples à suivre qui ont déjà été organisés dans certaines communes ? On a brièvement parlé, vous avez évoqué certaines communes, certains maires déjà, des gens, des associations qui peuvent nous aider. Peut-être des formations, je veux dire, assez courtes qu'on pourrait suivre pour un petit peu se donner des idées et voir comment le faire.
Alors, moi, je vous invite à vous rapprocher d'un réseau breton qui s'appelle Brud'aide. C'est un réseau d'échange d'expériences de développement local durable entre collectivités. Donc, eux, ils ont une très grande expérience. Je vous invite à prendre contact, bien sûr, avec Ingersheim. Alors, je ne sais pas si je prononce très bien, mais c'est un nom alsacien. Ingersheim, ils ont développé tout un tas de stratégies qu'ils ont eux-mêmes expérimentées. Et donc, ça, c'est vraiment super. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de retours d'expérience et de conseils à viser pour mener à bien une réforme. Joseph Pigalle, lui, c'est vraiment, donc c'était le maire de Kingersheim, qui lui a été vraiment novateur dans les agora démocratiques, comment on fait de l'empowerment. L'empowerment, c'est vraiment faire en sorte que les citoyens ne soient pas des consommateurs de la démocratie, mais des consommateurs. Voilà, donc c'est-à-dire que leur acte d'achat, leur avis sur la vie politique publique compte, et peu importe leur échelle sociale, leur rang social, ils doivent participer, c'est ça la vraie démocratie. Vous allez avoir, bien sûr, Moinsartou, ils sont super au point sur la question des régies agricoles communales, et ça, il faut vraiment prendre attache avec eux, parce que ils ont été ultra novateurs sur cette question-là. Gilles Perrol est quelqu'un d'absolument sympathique et il vous aidera. Après, moi, je ne vais pas toutes les citer. Vous allez une nouvelle fois sur le site sosmaire.org. Vous avez un onglet comme une empointe. Alors, vous nous excuserez, elles ne sont pas toutes citées. On en a identifié quelques-unes qui sont les plus en pointe, mais il y en a d'autres, parce que depuis qu'on a fait ce travail de lobbying, pas seulement nous, il y a plein de gens formidables qui font ce travail de lobbying. Nous, on a un peu de visibilité maintenant, mais il y a tellement d'autres associations qui sont largement plus formidables que nous, qui ont poussé au train pour qu'il y ait des réformes au niveau communal. Donc, on les salue toutes. Et, mais bon, sur notre site, sosmaire.org, vous trouverez Communes en pointe et vous avez tout un tas de communes qui sont vraiment exemplaires. Ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement autonomes en alimentation, mais qui ont entamé la démarche. Il y en a qui avaient entamé cette démarche il y a longtemps, donc ils ont beaucoup de retours d'expérience. Mais c'est aussi intéressant de suivre ceux qui commencent la démarche pour justement s'instruire, comprendre de leurs erreurs, s'échanger des données et évoluer ensemble.
Monsieur Boisson, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces idées. C'est très excitant, ça donne vraiment envie de se bouger et de passer à l'action. Je vous dis bon courage pour la suite et dans vos démarches.
Je peux rajouter un tout petit truc?
Bien sûr.
C'est pas qu'une question de protection des Français, la question de la résilience alimentaire locale. C'est aussi une question géopolitique. Typiquement, il est inacceptable aujourd'hui qu'on soit dans un tel degré de vulnérabilité par le ventre. D'accord ? Et qu'on soit garde du corps du président, ça ne change rien au fait que si les supermarchés sont vides, on ne fait plus rien et le chef de l'État n'est plus protégé, lui non plus. Donc il est ultra intéressant et ultra obligatoire que nous respections la loi, parce que le renforcement structurel de la France par le biais de la résilience alimentaire locale va faire que nous allons faire de fait de l'écologie et devenir exemplaires en termes de respect des accords de Paris, parce que les populations sensibilisées aux crises majeures vont faire des citoyens résilients. Et ce qui est intéressant, c'est que nous arrivions à un degré de résilience que le monde nous envie.
Ben, merci beaucoup pour ce dernier mot.
À vous aussi, merci.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !